Seigneur, je te remercie, Seigneur, de m'avoir guidé cette semaine, de m'avoir donné le privilège d'amener la parole devant mes frères et sœurs, Seigneur. Je te laisse toute la place, Seigneur. Amen. Le sujet que je vais vous amener aujourd'hui, c'est, on l'a presque entendu dans les louanges, « Je veux te connaître ». Vient me restaurer. Puis, hein. Est-ce qu'il nous connaît? Est-ce que Jésus nous connaît? On va voir plusieurs sujets. J'ai beaucoup de versets à vous amener, donc ceux qui ont des notes à prendre, c'est des versets qui touchent, qu'on doit revoir souvent. Souvent, on les passe comme ça, mais on connaît pas le sens. On n'a pas réalisé ce que ça veut dire. J'ai cherché, c'est mon point de vue, le vôtre n'est pas le même, parce que Dieu vous parle à votre cœur personnellement. Pour commencer, nous allons aller dans Romains 8. C'est un passage que tout le monde connaît, mais juste on le lit comme ça. On ne sait pas si on s'y retrouve. Oui ou non? 8 à partir du verset 28. Vous êtes là? Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Pourquoi j'ai choisi ce verset, ce passage? Il y a un mot dans ce passage, et on le retrouve à peu près 1500 fois dans la Bible, suivant les versions. C'est le mot « ce ». C'est le titre à l'un de mon message, ce, C-E-U-X. Ce, c'est court. On va voir qu'il y a beaucoup de monde derrière ces ce. Avant tout, je vais vous demander quelque chose. J'ai mis ce mois-ci dans le début de comment t'appelles ça, le bulletin, hein. J'ai mis un verset et puis j'ai dit, allez lire le reste. Combien d'entre vous ont été voir ce verset? C'était un peu pour tout le monde, pour vous réconforter. J'espère que plusieurs de vous ont été voir. Je vais vous le lire quand même. C'était Ésaïe 30, 19. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Vous voyez, celui qui nous connaît est là. Il te fera grâce quand tu crieras. S'il ne vous connaît pas, vous pouvez crier, il ne fera pas grâce. Souvent, il y en a qui sont loin de Jésus et ils crient. Ils crient à Dieu, mais à quel Dieu? C'est juste un passage que vous prenez à cœur, chacun de vous. Donc, ce, on va faire une petite, avant, une petite analyse. Dieu est vraiment à l'œuvre dans toutes choses, et pas seulement dans des situations isolées. Cela ne signifie pas que ce qui nous est, de ce qui nous arrive soit bon. Vous savez, il y a bien des choses qui nous arrivent qui ne sont pas bonnes. Est-ce que c'est le plan de Dieu? C'est sûrement son plan. Parce qu'il y a quelque chose à en tirer de ça. Le mal prévaut dans notre monde déchu, mais Dieu est capable de transformer chaque circonstance en ce qui sera finalement notre bien. Notons qu'il n'est pas à l'œuvre pour nous rendre heureux, mais pour accomplir ses plans. Dieu n'est pas là pour nous rendre heureux, pour accomplir ses plans, mais en accomplissant ses plans, il vous rend heureux quand même. Même dans les plus difficiles circonstances, puisqu'on en tire toujours du bien ou une leçon. Et souvent, ça nous fait du bien de passer par là. On a besoin d'être brossé, comme on entend des fois, dans le dos. Notons aussi que cette promesse n'est pas faite pour tout le monde. Elle ne s'applique qu'à ceux qui aiment Dieu et sont appelés par lui. C'est-à-dire à ceux que le Saint-Esprit a convaincus d'accepter Christ. Vous voyez, déjà, on fait un partage de ces ceux-là. Oui, la parole le dit, on va voir plus loin. Qui c'est, c'est ce? On parle de ceux, des personnes. Elles placent leur confiance en Dieu et non dans les trésors de ce monde. Leur sécurité est dans le ciel et non sur la terre. Dans la peine et la persécution, leur foi ne vacille pas parce qu'elles savent que Dieu les accompagne. Ceux qui aiment Dieu. Ce que la parole nous dit, c'est ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas Dieu? Ben oui, il y en a qui n'aiment pas Dieu. Du moins pas notre Dieu. Mais nous, ici, à l'Église du troisième jour, nous sommes de ceux qui aiment Dieu. Amen. Éphésiens 1, 4, 5. Nous allons voir aussi quelque chose d'autre là. Et pour savoir si nous appartenons à Jésus, oui ou non. Éphésiens 1 et 2 nous ramènent beaucoup de réponses à ça. Souvent, ça nous parle très fort quand on lit Éphésiens 1 et 2. Éphésiens 1, de 9 à 14. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Verset 14, c'est lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Vous voyez, c'est cela, hériteront serons héritiers parce qu'il nous a prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. Qui opère toutes choses? C'est Dieu. Sachant déjà ça, on se place déjà dans un compartiment de ces ceux-là. Nous allons voir quelques versets, enfin, pas mal. C'est mon message, c'est les versets, parce que ça m'a frappé au cœur, justement, quand je cherchais tous ces ceux-là. On va aller en décroissant, on va commencer par Apocalypse. Pourquoi? Parce que ça va bien dans ce que je voulais amener. Apocalypse 1:3. Heureux celui et ceux qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Est-ce qu'on fait partie de ces ceux-là? Est-ce qu'on lit la parole? Hein? On lit la parole, mais on doit la lire encore plus parce que il y a une prophétie. Il faut entendre la prophétie. Jacques 1:2. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Wow. Jacques 1:2. Voilà. 1:12, oh, ok, j'ai oublié de mettre le 1 devant le 2. Excusez. Vous voyez, nous allons recevoir la couronne de vie à ceux qui l'aiment. Oui, il nous aime. Hébreux 10:14. Vous n'êtes pas obligé de tourner peut-être parce que ça va prendre un peu de temps. Mais les noter au moins pour aller les voir plus tard. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est quoi cette offrande-là? Une seule offrande. Jésus crucifié. Il nous a amenés à la perfection parce que nous sommes sanctifiés. Nous sommes saints. Hébreux 10:39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Oh. Amen. Nous, à l'église, le troisième jour, c'est pour nous, ça. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Gloire aux fidèles. Merci, Seigneur, de les garder près de toi, ensemble, réunis. Hébreux 9:15. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. On voit dans la parole qu'il y a beaucoup de promesses. C'est pour qui ces promesses-là? C'est pour ceux qu'il aime. Ceux qui sont à lui. Hébreux 7:25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Ouais, mais c'est peut-être certaines Bibles, peut-être que ça décale. Hein. Ouais, la version. Okay, je vais voir dans la mienne. C'est 7.25, j'ai dit. Hein. Okay. Mais c'est un verset qui nous prouve que Jésus est vivant, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. Hébreux 6, 4, 5, 6. Hébreux 6, verset 4, 5 et 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. C'est très dur, ce verset-là. Au début, je lisais ce verset, je me disais, ok, c'est impossible que ceux qui quittent, hein, ne peuvent revenir, ne peuvent plus avoir droit à la repentance. C'est pas tout à fait ça. Quand il dit qu'ils sont tombés, c'est bien des gens qui ont été éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. Mais ils ont abandonné. C'est ceux qui abandonnent. C'est ceux qu'on ne voit plus puis qui se louent à d'autres dieux, à d'autres choses. Soit par des accoutumances, par des tentations, l'argent. Combien de choses nous font abandonner le Seigneur ? Peuvent nous faire abandonner le Seigneur. Je suis sûr que dans l'Assemblée, on a tous connu un ou plus de ces gens-là, de ces ceux-là. C'est ce que la parole nous veut dire. Il est impossible de revenir à ces gens-là. Ils sont vraiment sortis du camp. Vous voyez qu'il faut faire attention. Faire attention à qui on se loue, on se voue, qui on écoute, qui on suit. C'est tellement facile de se détourner du Seigneur. Hébreux 6, 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. C'est ça la réponse de le verset d'avant. Que vous ne vous relâchiez point. C'est difficile de ne pas relâcher des fois. C'est difficile de suivre la foi chrétienne, surtout dans ce moment, avec tout ce qui se passe autour de nous. Mais il ne faut pas se relâcher. Car on sait que la promesse, les promesses, sont au bout. Tite 3.8. Il dit, cette parole est certaine. C'est quoi ça? Cette parole est vraie. on peut se fier sur cette parole. Toute la parole. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Vous voyez, il ne suffit pas de croire, il faut s'appliquer à pratiquer les bonnes œuvres. Parce que Dieu veut se servir de nous. Nous sommes avant tout ses serviteurs. Qu'on soit grand ou qu'on soit petit, chacun a sa place dans le service de Dieu. De Timothée 3, 12. Ça, ce n'est rien qu'un verset que j'aime pas. Comme dit Tom, j'aimerais le rayer de la parole. Pourtant, ça vient de me dire que la parole est certaine. Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas l'enlever. Ok, on va y aller quand même. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement à Jésus-Christ seront persécutés. Oh, ce mot, j'aime pas ce mot. Persécuter, ça veut dire poursuivre. Et quelqu'un qui nous persécute, c'est qu'il ne nous aime pas, hein, en principe. Il ne nous persécute pas pour nous faire du bien. Mais pourtant, la parole dit ça. Il faut s'attendre à être persécuté. Mais le Seigneur est assez bon pour nous sortir de là. C'est sûr qu'il va nous faire passer par des moments comme ça. Mais gardez la foi, ne vous relâchez pas. 2 Timothée 2,19. Ça, je ne le savais pas tout à fait. J'étais en train de me demander. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ah ah, tiens. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Heureusement, hein? Or, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Hein? Si on est dans l'iniquité, je pense que le Seigneur ne nous connaît plus, là. Même qu'il dit qu'il nous appartient, qu'on lui appartient. S'éloigner de l'iniquité, des mauvaises choses. De Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. De Corinthiens 9, 24. C'est là. Oui, un Corinthiens. Alors, excuse. J'ai mal dormi cette nuit-là. Ça se voit. Excusez-moi. Un Corinthiens 9, 24. On connaît tous ce verset-là, hein. Vous savez, il y en a qui courent dans le stade, ils courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Est-ce que vous voulez courir à remporter le premier prix? Amen. Il faut courir assez vite pour ça, hein, pour avoir la meilleure place, la meilleure part du gâteau. Ben oui. Ouais, en tout cas, je veux, là. Même à mon âge, j'ai l'impression que je vais courir assez vite pour ça. Daniel, on vient de te dire, ne te relâche pas. bah oui. Il y en a qui trichent aussi, parce qu'il y en a qui te barrent la route pour pas que tu arrives le premier. Alléluia. Amen. Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Ben, il y en a de ceux-là. Tiens, qui c'est cela? Est-ce que c'est ceux qui aiment Dieu? Je ne pense pas. Je ne pense pas que Dieu approuve ça. Pourtant, la parole nous dit de prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Vous voyez que tous les ceux ne sont pas bons, hein. Il y en a bien des ceux de différents. Romains 12, 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ça c'est bon, ça c'est un verset pour nous, les enfants de Dieu. Hein? Souvent, on ne prend pas de cas de ceux qui se réjouissent, on ne prend pas de cas de ceux qui pleurent. Pourtant, la parole nous invite à se joindre à ceux-là. Aussi bien les uns que les autres réjouissent ou ceux qui pleurent. Parce que on a toujours besoin d'un frère ou d'une sœur, soit pour nous taper sur l'épaule, soit pour venir pleurer avec nous puis nous prendre dans ses bras. On a souvent des moments qu'on a besoin de ça. Si on n'a personne, c'est triste. Qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'on a le Seigneur, on a le Seigneur avec nous. On a besoin d'un frère ou d'une sœur aussi. Un papa ou une maman. Hein? Nos enfants. Romains 8, 29. Tout à l'heure, c'est « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Est-ce qu'il nous a connus d'avance? Oui. Parce qu'on voit dans la parole qu'il sait déjà, même dans le ventre de notre mère, qui on était. Même comment on allait s'appeler. Parce que les prénoms que l'on porte ne sont pas donnés au hasard. Vous savez, moi, ma mère, elle voulait m'appeler François. Et puis mon père s'appelait Daniel. Donc mon père, il disait, il s'appelait Daniel. Finalement, je m'appelle Dominique. Pourquoi? Parce que la sage-femme qui a accouché ma mère lui a dit, je voudrais qu'il s'appelle Dominique. Et qui c'est qui lui a dit? Et je me suis toujours posé la question, mais j'ai demandé à ma mère, comment ça se fait que tu as écouté? Je n'aimais pas mon nom quand j'étais petit. C'est un nom de fille. Comme on m'a dit, ouais, on me disait, c'est un nom de la petite fille. On ne pas ça. Et ma mère, elle, on n'aurait pas dû écouter la sage-femme. Et pourtant, c'est partout mon nom, c'est Dominique, partout. Le premier nom, Dominique Daniel. Il n'y a pas François, par contre. Je vais vous faire un pied de nez à ma mère. Pourquoi non, tu ne l'appelleras pas François? Mais c'est une raison, hein, je ne sais pas. Vous savez, comme comme des fois c'est bizarre, hein, notre vie. Et on se rend compte maintenant qu'en étant enfant de Dieu, que toute chose concourt à notre bien. Hein, on a bien vu tout à l'heure. Romains 8, 30. C'est encore ce qu'on a vu tout à l'heure. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Wow. On est glorieux, on est glorifié, on est justifié, on est saint. On a été appelé. Vous savez, appelé, c'est... ça signifie convoquer, inviter. Vous avez été choisi avant la création du monde pour recevoir son salut. Vous avez été convoqué, vous avez été invité. C'est pas n'importe qui est invité à la table du Seigneur. C'est nous, glorifiés, justifiés. On n'est pas n'importe qui quand même. On est des rois. On est des rois. Romains 10, 15. Ça va parler à Tom, ça parle à l'autre, là, au pasteur. Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Alléluia. Romains 8, 1. Ça, j'aime bien, c'est un peu comme souvent que Pasteur Claude cite souvent, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il prend la condamnation pour nous. On n'a plus. C'est quand même quelque chose. Romains 8, 8. Ça, c'est... Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Hein? C'est clair et net. On n'a pas de question là-dessus. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà. Nous sommes fils de Dieu. On a entendu la chanson tout à l'heure, hein? L'Esprit. Jean 20, 29. Voyez, nous, on dégraisse, hein, de plus dans la parole. Parce que tu m'as vu, tu as cru. C'est Jésus qui parle. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Avez-vous vu Jésus en chair et en os? Et croyez-vous en lui? Alléluia, merci. Hein? On n'a pas vu, mais on a cru. On croit. Parce qu'on sait. On sait, on a dans notre cœur que Jésus est vivant. Jean 17, 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde, la fondation du monde. Père, c'est le Père qui a donné à Jésus, nous. Hein? Parce que c'est lui qui nous a créés d'abord. Il nous a donné à son Fils. Et il veut que nous voyions sa gloire. Quand c'est qu'on va voir sa gloire? Quand on sera près de lui, là-haut, nous verrons sa gloire. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les ceux qui vont voir la gloire de Dieu. Il y en a d'autres qui vont voir autre chose ailleurs. C'est difficile de dire ça quand on pense que Dieu a créé tous les hommes de la terre. Ça nous le dit dans la parole, c'est tous. Alors que ce n'est pas tous ceux qui sont sur la terre qui aiment Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui auront la vie éternelle. Jean 17,11. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde-en ton nom, ceux que tu m'as donnés. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient comme nous. Et Jésus, il fait une sacrée prière. Là. Ils sont dans le monde. Mais moi, je vais vers toi. Mais Père, garde-les. Tu me les as donnés. Garde-les afin qu'ils soient avec nous, qu'ils soient comme nous. Est-ce qu'on fait partie de cela? De ces ceux que le Père a donné à Jésus. Je pense que oui, quand on a dit oui Jésus, je veux te suivre. Si on veut le suivre, partout où il ira, nous aussi nous irons. Il y a encore un passage que tout le monde connaît. Des fois qu'il faut bon de relire ce passage-là. Luc 8, 12, 13, 14, 15. Ceux qui seront le long du chemin sont ceux qui entendent. Vous voyez, on peut être le long du chemin et on peut entendre. Mais on n'est pas dans le chemin. Ils ne sont pas dans le chemin. Automatiquement, ils sont le long du chemin. Vous savez, c'est comme une foule qui applaudit les coureurs qui passent. Ouais, ouais. Et qui c'est les valeureux? Ce n'est pas ceux qui sont le long du chemin, c'est ceux qui courent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Vous voyez? Si vous êtes le long du chemin, entrez dans le chemin, vite, courez au but. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps, et succombe au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines sont ceux ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Nous ne voulons pas être parmi ceux-là, hein, succomber aux richesses, aux plaisirs, aux soucis. Ce qui est tombé dans la bonne terre, par contre, sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. C'est quoi porter du fruit avec persévérance? C'est ce qu'on sait, l'enseigner aux autres, le porter aux autres. Un arbre qui porte du fruit, ça veut dire qu'il a la semence. Si un arbre n'a pas de fruit, il n'y aura rien après lui. Il va mourir et rester là. Nous-mêmes, nous devons porter du fruit. Matthieu 5, 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Souvent, c'est ça, hein? On n'aime que ceux qui nous aiment. Oh, lui, je n'aime pas sa face, je ne l'aime pas. Lui, il parle trop, je ne l'aime pas. Lui, il ne vit pas comme moi, je ne l'aime pas. C'est pas ce que le Seigneur nous enseigne dans la parole. C'est pas ce qu'il nous dit, puisqu'il nous dit « Aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent. » Il dit « Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même ?» Il ne faut pas aimer seulement ceux qui nous aiment. Il faut regarder à l'indigent, à la veuve, à l'orphelin. Hein? C'est ça, ceux qui aiment Dieu. C'est ceux-là qui aiment Dieu, qui agissent comme ça. D'aimer tout le monde, d'aimer son prochain. Dans la parole ancienne, le Vieux Testament, parce qu'il y a deux trois versets que j'aime bien. Psaume 34, 7, qui nous dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. » Et on a même l'ange de l'Éternel qui campe dans notre camp. Hein? C'est pas bien ça? Amen. On n'est pas seul. Psaume 34, 9. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Ça, j'aime ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Je ne pense pas. Souvent, on croit qu'il nous manque quelque chose, on cherche encore. Mais finalement, on a tout. On a tout en Jésus-Christ. Psaume 34, 22. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Wow. Délivre ses serviteurs, ça fait que il est notre avocat. Psaume 68, 6. Ça, je l'aime celui-là. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Waouh, on est content à la voix de cette famille-là. Moi aussi, j'ai été abandonné un temps. J'étais content de trouver une famille en Christ. Ouais, mais ça dépend de la version que j'ai prise. Parce que j'ai été un peu dans la Darby. Puis il y en avait qui étaient qui me plaisaient plus qu'à d'autres. Hein? Ouais, c'est ça. Ceux qui étaient abandonnés, il les délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Et ça n'est des ceux, ça. Ces rebelles, c'est d'autres ceux. Ça. Psaume 145, 18, le dernier. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il faut être sincère devant l'Éternel. Vous savez, on parle maintenant de ceux qui aiment l'Éternel, ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont dehors ? Parce que la parole nous parle aussi de ceux qui sont dehors, hors du camp. Vous savez, comme je dis tout à l'heure, on est serviteur de Dieu, on est serviteur du Seigneur. Il nous a donné une mission avant tout. Ceux qui sont dehors, c'est de les faire entrer dans le royaume de Dieu. C'est à nous de les faire rentrer dans le royaume de Dieu. C'est notre mission. Vous savez, il y en a qui frappent à la porte. Il faut aller leur ouvrir. Vous savez, il ne suffit pas d'apporter la parole souvent comme ça. Souvent, une simple question. Une simple question à quelqu'un qui est à la porte, qui cherche. Connais-tu le Seigneur ? Où vas-tu à l'église ? C'est tout simple. Ça permet d'ouvrir des fois une conversation. Vous allez voir de suite si la personne est un rebelle ou si la personne veut s'approcher du Seigneur. Mais elle ne sait pas comment, parce qu'elle n'a jamais eu l'opportunité d'entendre la parole. L'opportunité de rencontrer quelqu'un qui a le cœur ouvert. Vous savez, la parole nous dit justement avec ces portes-là, Jean 6, 37, on va aller voir, tiens. Jean 6, 37 qui dit, c'est Jésus qui parle, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Vous voyez, si la personne cherche, qui veut venir à Jésus. Mais il faut toujours quelqu'un pour le guider et puis l'amener là. Nous-mêmes, comment nous sommes venus à Jésus, à Christ ? C'est bien quelqu'un qui nous a ouvert la porte. Hein? On n'est pas né, puis on est arrivé. Ben, peut-être qu'il y en a. Mais quand même, c'est quelqu'un qui nous a ouvert la porte, qui nous a fait entendre une parole, qui nous a invités Vous savez, quand il y en a qui frappent à la porte dans la parole, et puis qu'il y en a qui frappent à la porte, et puis Jésus, il ouvre, puis il dit, qui êtes-vous? Il dit, c'est nous, tu sais, on a prêché, on a enseigné, on a amené la bonne nouvelle, on a témoigné pour toi. Il leur dit, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Pourquoi ça? Pourquoi Jésus a refermé la porte? Je ne vous connais pas. Et il y en a bien comme ça, qui croient déjà être au Seigneur, qui se présentent à la porte, et on va leur dire, je ne te connais pas. Nous ne voulons pas être de cela, pas de cela. Vous savez pourquoi Jésus a dit ça? Ça nous rappelle les vierges folles. Ces gens-là qui frappent à la porte, ils n'avaient plus d'huile. Hein? Plus de lumière. Ils n'étaient plus illuminés. Le temps qu'ils allaient chercher de l'huile, c'était trop tard, minuit moins une. Trop tard. La porte était fermée. Vous voyez que des fois, c'est quand même cruel d'entendre ça aussi. Des fois que certains vont les frapper à la porte et n'auront pas eu l'occasion de rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas assez d'huile. Hein? C'est vous qui la prenez cette huile-là? Auprès de nous, qui connaissons le Seigneur. Hein? Les vierges folles, il y en a 10, c'est 5. 5 qui sont rentrées. Mais 5 qui n'avaient pas assez d'huile, qu'il a fallu qu'elles retournent en chercher quand ils sont revenus. Trop tard, la porte était fermée. Et c'est un petit peu la même histoire de ceux qui ont frappé, puis que Jésus lui a dit, qui êtes-vous? Vous savez, c'est facile de dire, oh, nous croyons, nous sommes à Jésus, nous sommes glorieux, nous sommes glorifiés. Est-ce que nous faisons partie de ce que nous venons de dire, là? Tout ce que nous venons énumérer? Est-ce que nous avons un cœur sincère pour dire, je suis à toi, je suis ton serviteur, me voici, envoie-moi? Et l'Écriture montre très clairement que ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ sont à la fois sauvés et appelés. Nous lisons dans 2 Timothée 1,9 « Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel. Mais si tout vrai croyant connaît quelque chose de la bénédiction du salut de Dieu, il y en a relativement peu qui entrent dans la joie de l'appel. » Vous voyez, la parole nous dit qu'il y en a peu qui rentrent dans la joie de l'appel. Moi, je veux être rentré dans cette joie de l'appel. Vous aussi, je suis sûr. Hélas, il est à craindre que pour beaucoup, l'appel ne soit qu'un terme rencontré occasionnellement dans l'Écriture, sans grande signification précise et donc sans effet sur nos vies. Pourtant, rien n'a une influence aussi puissante sur les conceptions du chrétien, sur sa manière de vivre et sur le caractère de ses associations, fréquentations, que la réalisation de l'appel de Dieu. Et le plus important, c'est ça, l'appel de Dieu. Connaître Dieu. Être connu de Dieu. Parce qu'il connaît ce qui lui appartient. On va finir avec une conclusion. Et la parole nous dit, Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Instinctivement, l'homme déchu considère Dieu comme étant contre lui. Et ceux qui ne croient pas, ceux qui ne sont pas dans le royaume de Dieu, ceux rebelles, ceux qui n'ont jamais connu, qui ne veulent jamais le connaître, ce que je disais tout à l'heure, ceux qui sont dehors et ceux qui sont tombés aussi. Ils ne veulent plus entendre parler du Seigneur, ils ne veulent plus entendre parler de Dieu. C'est ça, le monde déchu. La réalité est bien différente, comme le montre l'Évangile. Dieu a à son cœur tourné, à son cœur tourné vers tous les hommes. J'ai dit tout à l'heure, son cœur est tourné vers tous les hommes. C'est l'homme qui a partagé tout ça en religion et puis en tout ça. Parce qu'au départ, Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé les humains. Il n'a pas fait une partition. Toi, tu vas être catholique, toi, tu vas être musulman, toi, tu vas être hindouiste. Non. Et pourtant, il a créé la terre et tout ce qu'il y a dessus. Tous les hommes, toutes les femmes. Et il s'emploie activement et éternellement en faveur de tous. Ceux qui croient. Ah, là, il y a une différence. C'est pas Dieu qui fait la différence. C'est nous, ceux qui croient. Il nous fait des faveurs. Cela réduit au silence les ennemis. Sûrement que beaucoup d'ennemis, ça leur cloue le bec. Parce que beaucoup, ils ne savent pas quoi dire quand on leur parle du Seigneur. Il y en a beaucoup qui vont dire, ok, je ne veux pas l'entendre parler, un truc comme ça. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils n'ont rien à dire. Tout simplement. Aucun d'entre eux ne peut être efficacement contre nous, quand bien même ils le voudraient de toute leur force. Personne contre nous. Il ne faut pas se croire qu'on est juste une petite poignée et puis que... Non, 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 non. Parce qu'il y a ceux qui vont dans les églises, il y a ceux qui croient, il y a ceux qui aiment Dieu. Ils ne vont pas dans l'église, mais il y en a beaucoup qui sont quand même croyants et qui suivent Jésus dans leur façon. Mais malheureusement, ils ne sont pas là pour aider les frères et sœurs quand ils ont besoin. C'est à nous de leur ouvrir la porte et les faire rentrer officiellement dans le royaume de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour la parole que tu m'as donnée, Seigneur.